On lit dans le chapitre, dans le livre de Ruth. Et on peut reprendre la lecture sans vouloir exclure des pensées d'avant, mais à partir du verset 15 du chapitre 1. Ruth, chapitre 1, verset 15. Et Naomi dit: Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-t'en après ta belle-sœur. Et Ruth dit: Ne me prie pas de te laisser, pour que je m'en retourne d'avec toi. Car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Ainsi me fasse l'Éternel, et ainsi il y ajoute, si la mort seule ne me sépare de toi. Et Naomi vit qu'elle était résolue d'aller avec elle, et elle cessa de lui parler. Et elles marchèrent les deux jusqu'à ce qu'elles arrivèrent à Bethléem. Et il arriva que comme elles entraient dans Bethléem, toute la ville s'émut à leur sujet. Et les femmes disaient: Est-ce là Naomi? Et elle leur dit: Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Ne m'appelez pas mes délices, mais amère. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je m'en allais comblé, et l'Éternel me ramène à vide. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, quand l'Éternel m'a abattu et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi Naomi revint, et avec elle Ruth, la Moabite, sa belle-fille, qui était venue des champs de Moab, et elles vinrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Et Naomi avait un ami de son mari, homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et son nom était Boaz. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi: Je te prie, j'irai au champ et je glanerai parmi les épis, à la suite de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui dit: Va, ma fille. Et elle s'en alla et entra et glana dans un champ après les moissonneurs. Et il se rencontra fortuitement que c'était la portion du champ de Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur: L'Éternel soit avec vous. Et ils lui dirent: L'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur qui était établi sur les moissonneurs: À qui est cette jeune femme? Et le serviteur qui était établi sur les moissonneurs répondit et dit: C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Naomi des champs de Moab. Et elle nous a dit: Permettez que je glane et que je ramasse entre les gerbes, après les moissonneurs. Et elle est venue et est demeurée depuis le matin jusqu'à cette heure. Ce qu'elle a été dans la maison est peu de choses.
Quelques mots sur l'histoire de Ruth. Au début, pour l'homme du monde, l'histoire et le choix du Ruth est quelque chose d'insensé. Quitter les aises de Moab, la douceur sans doute de sa famille, quitter son pays natal, quitter ce pays idolâtre qu'elle connaissait bien, entreprendre un voyage dont elle ignore tout, pour aller dans un pays qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu. « avec la compagnie d'une pauvre veuve indigente qui a perdu ses deux fils. L'histoire de Ruth, pour l'homme du monde, c'est quelque chose d'insensé. C'est le comble de la folie. Mais en réalité, c'est le chemin de la foi. Le chemin de la foi, c'est de tout quitter, tourner le dos à ce monde, faire ce demi-tour et se mettre en chemin vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est ce que réalise Ruth dans son choix de partir avec Naomi. Quand nous lisons attentivement ce premier chapitre, nous ne voyons pas de manifestation extérieure, pour ainsi dire, de la foi. Mais en réalité, la foi est présente, elle est bien là. Et la première manifestation de la foi de Ruth, c'est elle s'attache à elle s'attache à Naomi. Et nous comprenons que l'énergie de la foi rend capable Ruth de vaincre l'attrait de son pays natal. Et comme on peut le trouver ailleurs dans la parole de Dieu, elle emprunte le chemin du pèlerin. Elle accepte le sort de l'étranger et elle se dirige vers le pays de Juda, vers Israël, vers Bethléem, la maison du pain, et elle y va comme un pèlerin qui quitte tout. Et elle met enfin sa confiance dans le vrai Dieu, le Dieu vivant d'Israël. Au fond, n'est-ce pas notre histoire à chacun ? Quelques mots encore sur Naomi. Ce qu'on avait abordé la dernière fois. Naomi s'était éloignée avec son mari Elimelech et ses deux fils. Son mari est mort, ses deux fils qui s'étaient mariés avec des filles moabites sont morts aussi. Et Naomi reste une dizaine d'années dans le pays de Moab. Et elle apprend que l'Éternel avait visité son peuple pour lui donner du pain. Et nous comprenons que les souffrances qu'elle avait traversées ne l'avaient pas ramenée à Dieu. Et nous savons que nous pouvons être éprouvés et que les souffrances peuvent être en aide pour revenir à Dieu si nous nous sommes éloignés. Mais ces souffrances, sans doute, préparent les cœurs. Et elle prépare les cœurs à recevoir les nouvelles de la miséricorde de Dieu. Et Naomi apprend donc à entendre dire que l'Éternel avait visité son peuple et que l'Éternel ne rejette pas pour toujours et que l'Éternel a compassion. Et ce qui l'amène à se lever et à partir vers Israël, c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Et c'est toujours la grâce de Dieu qui attire un cœur. Et cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui était intervenue en Israël, eh bien, nous comprenons que c'est le moment pour Dieu d'intervenir en grâce et qu'il peut toujours agir et il veut toujours agir vis-à-vis d'un croyant qui s'éloigne. Sa relation avec Dieu, Naomi, avait souffert. Et nous le voyons dans le mauvais conseil qu'elle donne à ses deux belles filles. Elle leur dit à toutes les deux de retourner à Moab. Et nous en avons peut-être fait l'expérience nous-mêmes, c'est que si nous allons vers le monde, si nous nous écartons, eh bien, la relation avec notre Dieu est altérée. Et c'est pour ça que Naomi donne ses mauvais conseils à ses deux belles filles. Le chemin de la restauration est sans doute assez long, et nous le voyons à travers l'histoire de Naomi. Au fond, elle manifeste une certaine froideur spirituelle vis-à-vis de ses deux belles filles. Elle leur dit de retourner. Et la bonne nourriture lui avait sans doute manqué longuement quand elle était dans le pays de Moab. Dans le monde ne nourrit pas un croyant ou une croyante. Et si nous partons vers le monde, si nous nous éloignons, eh bien, notre relation avec Dieu sera véritablement altérée. Mais même si Naomi donne un mauvais conseil à ses deux belles filles, eh bien, nous voyons quand même que Dieu va se servir de ce mauvais conseil à travers les réponses de ces deux belles filles au conseil de Naomi de retourner dans le pays de Moab. Au fond, un choix décisif est devant les deux belles filles, Orpa et Ruth. Et dans la vie, il y a sans doute des choix décisifs qui sont devant nous. Et ce choix va mettre en évidence l'état moral réel à la fois de Orpa et de Ruth, et va se manifester pour la première fois la foi de Ruth dans sa décision de prendre la direction d'Israël, de Bethléem, de la maison du pain. Qu'en était-il de la relation de Ruth et de Naomi? Mais certainement que que Naomi avait eu une conduite digne malgré son éloignement. Et elle avait sans doute parlé du Dieu d'Israël pour que Ruth désire le connaître et dire qu'elle veut pleinement connaître le Dieu d'Israël.
Quand on parle de la foi de Ruth, on parle au fond d'autre chose, d'une foi d'une autre nature que ce que nous avons, si je peux dire comme ça, l'habitude. Si je prends juste comme exemple Hébreux 11, verset 7, « Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit une arche. » Verset 8, « Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage. Et il s'en alla, ne sachant où il allait. » Voilà deux croyants qui avaient une connaissance et une relation avec Dieu jusque-là. Et à un moment, Dieu les interpelle, leur dit quelque chose de précis qui, pour le raisonnement, est une folie. Construire une arche en pleine terre, un bateau énorme, voilà, une œuvre, un travail monumental à un endroit où il n'y a pas de mer. Voilà, pour l'homme sans relation avec Dieu, c'est une folie. Même pour le croyant, ça pourrait paraître une folie. La foi de Noé a fait qu'il n'a pas raisonné, il a écouté ce que Dieu lui a dit, il a obéi, et il ne s'est pas posé de questions sur la suite. Abraham, c'est un peu pareil. Quand Abraham reçoit l'ordre d'aller, de quitter tout, il part, il s'arrête un peu en chemin, et puis il repart. Mais il connaissait l'Éternel. Mais aussi partir en laissant tout pour aller vers un pays inconnu qu'il ne connaissait pas, c'est aussi, dans un sens, comme construire une arche, c'est aussi une folie. Et c'est ce côté de cette apparence de folie qu'on fait le joint avec Ruth. Mais avec une grosse différence. Ruth ne connaissait pas l'Éternel jusque-là. Ou elle ne connaissait de l'Éternel que ce que Naomi avait pu dire. On a un exemple d'une autre personne qui a peut-être été animée par une foi qui, au départ, a pu être similaire. Je pense à Ittaï, le Guitien, qu'on voit dans 2 Samuel 15. Au moment où David s'enfuit, on le voit déjà, il a déjà parlé de lui bien sûr avant, c'est un de ces hommes forts de David, qui avait suivi David quand il était pourchassé, et son nom, le Guitien, il veut dire qu'il venait de Gath. Et qu'est-ce qu'on lit en 2 Samuel 15, verset 19 et suivant ? Le roi dit à Ittaï le Guitien, « Pourquoi viendrais-tu toi aussi avec nous ? Retourne-t'en et demeure avec le roi. » Car tu es étranger, et de plus tu as émigré dans le lieu où tu habites. Tu es venu hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là. Quant à moi, je vais où je puis aller. Retourne-t'en et emmène tes frères. Que la bonté et la vérité soient avec toi. Mais Ittaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant, le roi mon Seigneur est vivant, que dans le lieu où sera le roi mon Seigneur, soit pour la mort, soit pour la vie, là aussi sera ton serviteur. Tu es étranger, tu es venu hier. Voilà, il était un Philistin qui avait suivi David. Et qui avait suivi David, et qu'est-ce qu'il dit comme réponse ? Mais il dit au fond la même chose que Ruth. Pourquoi je devrais te laisser ? Tu es tout pour moi. C'est ce que Ruth dit à Naomi. Ne me prie pas de te laisser pour que je m'en retourne avec toi, car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. La foi de Ruth, on peut dire que c'est une foi qui est un peu celle qu'exprime Jacques. Chapitre 2, verset 18, au milieu. Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. C'est une foi qui n'a pas de relation personnelle avec Dieu jusque-là. C'est une foi qui n'a pas de connaissance même. Elle ne connaît pas grand-chose de Dieu. Si on regarde parallèlement, par ailleurs, bien des passages, pour les nations, l'Éternel, c'était, comme eux avaient plein d'idoles, l'Éternel, c'était l'idole d'Israël. C'était le Dieu d'Israël, point. C'était un Dieu parmi les dieux. Qui est l'Éternel pour Ruth, si ce n'est ce que Naomi a pu en révéler, pas forcément avec beaucoup de paroles, mais avec une attitude. Et l'attitude de Naomi, quand elle se met en route, elle ne dit pas grand-chose, il ne nous est pas rapporté grand-chose du pourquoi elle s'est remise en route. Elle avait entendu dire que l'Éternel avait visité son peuple pour leur donner du pain. C'est la seule chose qui nous est dit. Mais quant à elle-même, il ne nous est dit pas grand-chose. Et même ce qu'elle-même exprime, verset 13 à la fin, « Non, mes filles, car je suis dans une plus grande amertume que vous, car la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Littéralement, la note nous dit « La main de l'Éternel est sortie contre moi. » Elle a le sentiment d'avoir l'Éternel contre elle. Elle a le sentiment que tout ce qui lui est arrivé, la perte de son mari, la perte de ses fils, ce veuvage, plus rien, ne possédant plus rien, Dieu est contre elle. Ça traduit une grande humiliation, mais ça traduit une méconnaissance du Dieu de grâce. Après, il ne faut pas oublier que nous sommes en Israël dans la dispensation de la loi. La grâce se manifeste bien souvent, mais de façon cachée. La règle, ce n'est pas la grâce. Si nous regardons l'histoire de David, le péché de David, Bathsheba, David méritait deux fois, trois fois la mort. Et son appel à la grâce de Dieu chez David révèle une connaissance rare dans l'Ancien Testament du Dieu de grâce et une humiliation profonde. Mais ce n'est pas la règle. Ce n'est pas la manière dont l'Israélite connaissait et avait une relation avec Dieu habituellement. Et dans cette amertume, pourtant, il y a cette volonté de retour chez Naomi. De retourner en Israël. Dans tout ce qu'elle dit, l'Éternel est présent dans sa bouche très souvent. Le nom de l'Éternel. Verset 8, que l'Éternel use de bonté envers vous. L'Éternel vous donne de trouver du repos. L'Éternel est une réalité alors même qu'elle ressent l'Éternel contre elle. Et Ruth, ce qui est le moteur de cette foi, c'est premièrement un profond attachement à Naomi. Et cet attachement à Naomi veut dire que tout ce qui compte pour Naomi compte pour elle. Tout ce qui compte pour Naomi compte pour elle. Et ce qui compte pour Naomi, c'est retourner au pays d'Israël, retourner à l'Éternel. En retournant dans ce pays, elle retourne à l'Éternel. Et si on regarde, on aura l'occasion probablement encore de remarquer, mais à travers tout ce livre, la foi de Ruth ne se manifeste jamais en paroles. C'est toujours des actes qui révèlent un cheminement dans la foi. La foi de Ruth, c'est quelque chose qui peut se discuter, mais à mon sens, là, dans ce chapitre que nous sommes en train de lire, ce n'est pas une foi consciente. C'est un grand attachement à Naomi, prêt à tout laisser pour suivre Naomi. Et elle n'a probablement pas conscience qu'au fond, c'est Dieu qui agit et que c'est vers Dieu qu'elle va. Après, je voudrais quand même revenir, Michel a évoqué le mauvais conseil de Naomi. Je pose quand même la question, quel conseil pouvait-elle donner? sur deux points. Quel conseil pouvait-elle donner? Quel bon conseil pouvait-elle donner? Premièrement, dans son état. Deuxièmement, à deux Moabites, dans la situation d'Israël et de Moab, dans cette économie.
Quels sont les signes de la foi de Ruth? Il faut que nous nous attachions à ce que dit la parole de Dieu. Le premier signe, c'est sans doute le fait que Ruth s'attache à Naomi avec cette ferme résolution de partir avec elle. C'est-à-dire que Ruth a tout pesé dans son cœur et son cœur s'engage après l'Éternel et nous voyons que sa décision est irrévocable. Le deuxième signe de la foi de Ruth, c'est son choix qui est annoncé avec cette belle confession. Hein, c'est « Ton Dieu sera mon Dieu ». Ça ne peut être qu'une croyante qui exprime une telle chose. Et elle tourne donc le dos, comme on l'a exprimé tout à l'heure, à son pays, à sa parenté, à ses amis, à ses idoles. Et dans son choix, elle est déterminée à se rendre en Israël, et où elle sera qu'une étrangère, impure aux yeux de tous, parce que les Moabites étaient impurs. Mais n'est-ce pas la foi qui agit en Ruth pour s'engager dans un tel chemin et aller vers le peuple d'Israël, dans le pays d'Israël, où elle sera considérée comme une étrangère, comme une impure aux yeux de tous. Mais si c'est agir par la foi. Troisièmement, son amour pour son premier amour, disons, pour l'Éternel, la pousse à entreprendre ce chemin en faisant entièrement confiance en Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. N'est-ce pas une confession extraordinaire, hein? Ton Dieu sera mon Dieu. Je mets ma confiance dans ce Dieu d'Israël. Et nous voyons aussi que cette foi est communicative. Nous voyons dans le verset que Naomi et Ruth marchent les deux ensemble. Et nous voyons là que la parole de Dieu nous dit eh bien, qu'elles sont unies ensemble. Qu'est-ce que c'est qui pouvait unir à ce moment-là Naomi qui retournait à Israël et Ruth qui prenait le chemin d'Israël? N'est-ce pas la foi naissante de Ruth dans l'Éternel? Il y a peut-être un autre signe de la foi agissante de Ruth, c'est les égards et la déférence qu'elle a vis-à-vis de sa belle-mère, qui est une croyante âgée. Et Naomi s'engage donc à aider sa belle-mère. Hein? Nous pouvons les voir toutes les deux, l'une âgée, amère, s'appuyant sur une plus jeune et qui marche les deux ensemble, n'est-ce pas la foi qui unit? Et nous voyons aussi la providence divine. Voyons cette croyante âgée, marquée. Est-ce bien Naomi? Eh bien, l'Éternel lui accorde une aide plus jeune. Et n'est-ce pas d'une grande beauté quand un frère âgé, une sœur âgée sont accompagnés par un frère plus jeune, une sœur plus jeune, l'un ou l'une s'appuyant sur l'autre et marchant ensemble? Et nous voyons que Naomi va être aidée par Ruth, comme on dit aujourd'hui, à se reconstruire après 10 ans d'errance. Eh bien, plus tard, Naomi va retrouver la paix et la joie dans le Seigneur.
Peut-être juste encore un signe de la foi naissante de Ruth, c'est au verset 17 quand elle dit « Ainsi me fasse l'Éternel, et ainsi il y ajoute. Si la mort seule ne me sépare de toi. » On voit peut-être là qu'elle ne savait peut-être pas grand-chose de l'Éternel, mais elle savait qu'il était vivant. Et qu'il était capable de faire des choses et certainement aussi de donner la mort et la vie.
Nous voyons donc que Naomi retourne vers le peuple de Dieu et avec Ruth qui l'accompagne, Orpa est retournée vers les idoles, alors que Ruth, comme Moïse, a choisi plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des délices du péché. On peut dire que Ruth a fait ce choix. Et comme les Thessaloniciens, 13 siècles plus tard, elle s'est tournée des idoles vers Dieu. Elle s'est tournée des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc nous voyons là bien la grâce de Dieu et la foi de Ruth.
Naomi arrive maintenant avec Ruth à Bethléem. Elle revient dans la ville qu'elle avait quittée il y a longtemps. C'est un moment heureux quand on s'est éloigné et quand on revient au point de départ. Mais c'est sans doute aussi quelque chose de difficile à vivre. Comment va-t-elle être accueillie? Avec des reproches, avec hostilité, avec indifférence, avec amour. Il nous est dit que toute la ville s'est émue à son sujet. Et il semble que c'est bien volontairement, et on n'en doute pas que que la parole de Dieu ne nous dit rien de plus. Et c'est sans doute un sujet de méditation. L'émotion, c'est quoi l'émotion? Est-ce que c'est un sentiment profond ou c'est un sentiment superficiel? Toute la ville s'émeut à son sujet. Un frère ou une sœur qui s'est éloignée et qui revient, nous sommes peut-être émus à son sujet, mais de quelle nature est cette émotion? Est-ce que nous nous interrogeons, est-ce possible? Alors que peut-être nous avons oublié ce frère et cette sœur depuis longtemps. Et là, nous voyons que les épreuves avaient laissé des traces. Est-ce bien Naomi? Et puis qui est cette étrangère qui l'accompagne? Et où sont les trois absents? Et ce qu'il y a de remarquable, nous voyons que Naomi, elle fait face à ses compatriotes qui sont interrogateurs. Et en quelques mots, elle résume son triste parcours et s'en humilie. Elle réalise sans doute la folie d'avoir quitté Bethléem. Elle ne blâme pas son mari et elle confesse sincèrement son péché avec un cœur brisé. Elle revient à vide et nous la voyons qu'elle est soumise à la discipline de Dieu, de l'Éternel, qui va produire le fruit paisible de la justice. Sa confession véritable atteste le travail de Dieu. Et nous savons qu'elle revient à vide, comme elle l'exprime, avec amertume. Mais est-ce que Dieu ne va pas la remplir de quelque chose de meilleur? Et la suite, dans les chapitres 2, 3 et 4, va nous montrer que l'Éternel a préparé quelque chose aussi pour elle, pour Naomi, comme il a préparé quelque chose pour Ruth. La question qu'on peut se poser aussi, et cela ne nous est pas dit, c'est que est-ce que ces deux croyantes ont reçu de l'aide de la part des gens de Bethléem, de ses compatriotes? Mais il ne semble pas. De l'émotion, mais rien ne nous indique que ces deux veuves ont reçu de l'aide. Mais le chapitre se termine premier par cette moisson des orges. Et puis, nous voyons que Dieu a préparé quelque chose pour elle. Et c'est quelque chose de magnifique parce que, au fond, nous voyons que l'Éternel est le Dieu des veuves et ses soins vigilants sont toujours présents pour les veuves.
Ne m'appelez plus Naomi, mais Mara, donc amertume. Elle ne faisait aucun reproche, comme nous l'avons déjà dit, à son mari Elimelech, mais elle était dans l'affliction. Alors, Hébreux 12, voyons que l'affliction, Dieu, le peuple, était dans l'affliction. Elle était dans l'affliction. Mais elle pouvait, comme aussi Jacob, dans Genèse 42, 36, quand Joseph n'était plus, quand Siméon n'était plus, il pouvait dire « Toutes ces choses sont contre moi ». Et nous voyons ainsi Naomi aussi, qui était abattue. L'Éternel m'a abattue. Mais elle était dans l'affliction. Mais tout vient de l'Éternel, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui la ramène dans son peuple, dans son pays, dans ce peuple qu'elle avait quitté. Nous voyons aussi les encouragements que Dieu donne lorsque nous nous éloignons de lui. C'est lui-même qui nous ramène. C'est l'Éternel qui a ramené Naomi dans son peuple. Mais elle était affligée, elle était abattue. Mais nous voyons par la suite que toutes ces choses que Dieu avait devant lui, combien cela commence par la misère et ça finit par ainsi les choses, les bénédictions célestes et éternelles. Vous voyez aussi David dans le psaume 23. Là aussi, David pouvait dire « L'Éternel restaure mon âme ». C'est ainsi que Naomi, c'est l'Éternel qui restaurera son âme.
Pourrions lire un verset du psaume 89. Au milieu du verset 19, j'ai placé du secours sur un homme puissant. La suite de l'histoire de Naomi et de Ruth, dans les chapitres 2, 3 et 4, c'est l'application stricte de ce verset du psaume 89. J'ai placé du secours sur un homme puissant. Et cet homme puissant est nommé dès le premier verset du chapitre 2. Et Naomi avait un ami de son mari, homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et son nom était Boaz, en lui est la force. Et Boaz est un beau type de Christ auquel Ruth va s'attacher progressivement. Dans les trois chapitres, 2, 3 et 4, Boaz est cité 21 fois, 3 fois 7. C'est-à-dire, la parole de Dieu veut que nous fixions nos yeux sur Boaz, sur cet homme puissant. Et pourquoi? Eh bien, c'est une leçon pour nous de toujours fixer les yeux sur le Seigneur Jésus, sur Christ, afin de ne pas nous égarer. Et dans le livre de Ruth, la suite, nous verrons que la providence de Dieu va amener Ruth vers un champ de Boaz, afin que les désirs de sa foi nouvelle soient satisfaits. Et elle va travailler dans un domaine qui appartient à Boaz et elle va ainsi apprendre à le connaître et elle va s'attacher à lui progressivement. Et donc, elle se trouve dans le lieu où Boaz habite, qui appartient à Boaz. Un chrétien, eh bien, il doit habiter aussi dans le lieu où Christ habite et où il demeure. Et en dehors du champ de Boaz, mais Boaz ne s'y trouvait pas, Et il y a un endroit dans lequel Dieu habite, où nous devons habiter avec lui. Eh bien, en dehors de ce lieu, c'est-à-dire dans le monde, eh bien, Dieu ne s'y trouve pas. Et c'est pour ça que nous devons faire, bien sûr, attention à rester dans le champ que Dieu nous a donné. Il faut donc rechercher le lieu où Dieu se trouve. Il faut rechercher le lieu où le Seigneur est présent, c'est-à-dire le lieu qui lui appartient et le lieu où il est chez lui. Et nous pourrions dire aussi que le champ de Boaz, c'est l'endroit où les droits de Boaz sont respectés. Un endroit où les ouvriers sont des serviteurs, un lieu où l'on travaille si l'on en reçoit l'ordre. Et ce qu'il y a de tout à fait remarquable dans le champ de Boaz, c'est l'ordre qui y règne. Il y a Boaz lui-même, il y a ensuite le serviteur qui est établi sur les moissonneurs, il y a les moissonneurs eux-mêmes, il y a les jeunes gens, il y a les jeunes filles, tout est en ordre. Et c'est tout à fait remarquable de regarder la parole de Dieu qui concerne le champ de Boaz, les intérêts du maître, eh bien, sont respectés. Nous habitons dans l'assemblée, faisons partie de l'Église. Est-ce que les droits du divin Boaz sont respectés? Est-ce que tout est en ordre selon la pensée de Christ?
Le premier verset de ce chapitre 2 est remarquable dans la manière dont les choses sont dites. Et Naomi avait un ami de son mari. Il n'est pas dit qu'il y avait un ami d'Elimelech. C'est Naomi qui avait un ami de son mari. Un ami de son mari, c'est la chose qui est dite en premier. Après, il est dit que cet homme était puissant et riche. Et à la fin, il nous est dit « de la famille d'Elimelech ». Et à la fin, tout à fait, à la fin, son nom. La première chose qui est mise en avant, un ami de son mari. Donc quelqu'un avec un a priori bienveillant à son égard. Un ami d'Elimelech qui n'est plus. Après, le fait qu'il soit puissant et riche, il peut. Voudra-t-il? Il est ami. Oui, mais voilà, Naomi, elle revient d'un chemin d'éloignement. Voudra-t-il? Et puis après, elle introduit cette idée de la famille d'Elimelech. À ce stade des choses qui nous sont présentées, on ne voit pas l'intérêt de préciser. C'est dans la suite qu'on va comprendre en rapport avec le droit de rachat de la famille d'Elimelech. Il a un droit particulier. Et puis, en fin de compte, son nom nous est donné. Son nom de Boaz, en lui la force, en lui la capacité. Voilà. Deuxième chose que je voudrais relever, en particulier, pour les enfants, c'est un mot qu'on utilise toujours de nouveau, ce mot de providence. Et c'est un mot qui n'est pas forcément très clair ce que ça veut dire. Au verset 3, on a une explication, une illustration très simple de ce que c'est que la providence. Dieu agit sans qu'on le voie agir, sans qu'il se révèle lui-même comme celui qui agit. Il se rencontra fortuitement que c'était la portion du champ de Boaz. Celui qui raisonne sans Dieu, il dira c'est le hasard. Par hasard, elle est tombée juste sur un champ qui était à Boaz. La foi reconnaît la main de Dieu qui guide malgré la personne qui est guidée. Ruth n'a aucune conscience que ce n'est pas par hasard qu'elle arrive dans ce champ. Dieu agit comme, si je peux dire, utiliser cette expression, comme dans les coulisses, derrière la scène. On ne le voit pas agir. On a un exemple un peu similaire de, où justement Dieu se manifeste ainsi. La providence de Dieu, c'est dans le livre d'Esther. Il y a, on peut trouver certainement d'autres illustrations, mais je pense à celle-là. Esther 6, au chapitre précédent, on voit Haman qui a organisé le complot contre les Juifs et contre Mardochée tout particulièrement. Et puis au chapitre 6, verset 1er, il nous est dit « Cette nuit-là, le sommeil fuyait le roi et il ordonna d'apporter le livre d'Annales des Chroniques et on y lut devant le roi et on y trouva écrit que Mardochée avait fait connaître à l'égard de Bigthan et de Térech, les deux eunuques du roi, gardiens du seuil, qu'ils avaient cherché à porter la main sur le roi. » Voilà. Il se fait que cette nuit-là, Assuérus ne trouve pas le sommeil. Et il demande à ce qu'on lui lise le livre des Chroniques. Et il se fait qu'à ce moment-là, on lit juste la portion de ce livre des Chroniques qui rapporte comment Mardochée avait révélé le complot contre le roi Assuérus. À noter que dans le livre d'Esther, c'est particulièrement remarquable parce que le nom d'Éternel n'y apparaît pas du tout. Dieu agit là en ôtant le sommeil à Assuérus et en faisant que c'est ce passage de ces chroniques qui sont lus à ce moment-là. La providence, Dieu agissant sans se manifester lui-même, agissant dans les faits, dans les circonstances, dans les enchaînements de circonstances, agissant, il a la main sur toute chose. Il n'y a aucun problème, si je peux dire pratique, pour Dieu, pour agir comme ça. Mais la parole ne nous dit pas « Dieu fit », « Dieu envoya ». Elle nous montre des circonstances qui se révèlent être dans la main de Dieu. Et puis, le dernier point que je voulais relever, verset 2. Et Ruth la Moabite dit à Naomi, « Je te prie, j'irai au champ et je glanerai parmi les épis à la suite de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Ruth a bien conscience de leur situation. Elles sont dans le besoin. Et elles ne restent pas là, les bras ballants, à attendre que quelque chose se passe. Mais elle demande à Naomi, « Je te prie, permets-moi et j'irai faire ceci, cela. J'irai glaner, j'irai prendre ce qui reste quand les moissonneurs ont passé dans les champs, ce qui est tombé par terre, que la loi prescrivait qu'il fallait laisser par terre, qu'il ne fallait pas ramasser après la moisson, qu'il fallait laisser justement pour ceux qui étaient indigents. Et puis j'irai glaner à la suite de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle sait qu'elle n'a droit à rien et elle fait appel. Elle espère, elle compte sur la grâce de quelqu'un. Elle ne sait pas qui, de quelqu'un. Et elle se met en mouvement. Elle agit. Elle ne reste pas à attendre que les choses se passent. Elle va. Elle va faire. Elle prend l'initiative. Elle n'attend pas non plus que Naomi lui suggère. Mais c'est fait. On a relevé tout à l'heure qu'elles étaient rentrées en marchant ensemble. Là, on a la même chose. C'est d'un commun accord, Ruth, Naomi, que Ruth va glaner pour leur nourriture. Relever d'ailleurs que là, il ne s'agit pas juste de leur nourriture du quotidien. Il s'agit d'amasser du grain pour passer l'hiver. On est au printemps, au début du printemps, la moisson des orges, c'est le tout début. Et dès le début, elle est bien en souci de faire des provisions. Ce qu'il faut pour manger aujourd'hui et demain, et faire des provisions. La foi en action. elle agit.